Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler électricité. Elle est partout dans nos vies, mais comment elle voyage vraiment à travers la matière? On va explorer ça de plus près en se basant sur des documents qui décrivent la conduction électrique dans la matière. L'idée, c'est de comprendre comment le courant passe, que ce soit dans un fil de cuivre, une solution saline ou même dans l'air. Alors, prête à décortiquer tout ça? Commençons par le plus évident, les métaux. Quand on pense courant dans un métal, on imagine souvent des électrons qui filent à toute vitesse. Mais c'est un peu plus subtil.
Oui, c'est ça. En fait, ce sont les fameux électrons de conduction. Ils sont assez libres de bouger dans le réseau cristallin du métal.
D'accord.
Mais quand on applique une tension, ils ne font pas un sprint, hein. Ils dérivent très lentement individuellement. C'est ce qu'on appelle la vitesse de dérive.
Ah oui, cette fameuse vitesse de dérive.
Exactement. Elle est très lente pour chaque électron, mais comme ils sont des milliards et des milliards, eh bien, leur mouvement d'ensemble crée le courant électrique qu'on mesure. C'est vraiment l'effet de foule.
Impressionnant. Et il y a même un cas extrême dans les métaux, la supraconductivité. Là, en dessous d'une certaine température critique, qui est souvent très basse, la résistance disparaît totalement. C'est comme une autoroute parfaite. Fascinant. Et si on veut carrément sortir ces électrons du métal, comment on fait?
Il faut une certaine énergie, c'est ça? Le travail d'extraction?
C'est ça. Il faut leur donner un coup de pouce énergétique. Il y a deux moyens principaux. Soit on chauffe très fort le métal, c'est l'effet thermoionique.
Les électrons s'agitent tellement qu'ils finissent par s'échapper. Ou alors, on éclaire le métal avec la bonne lumière, la bonne énergie. Et ça, c'est l'effet photoélectrique. La lumière tape sur les électrons et les éjecte.
D'accord. Et si on met deux métaux différents en contact, il se passe quoi?
Là, on touche aux effets de jonction. D'abord, il y a l'effet Volta, une petite tension qui apparaît juste au contact. Mais plus intéressant pour les applications, ce sont les effets thermoélectriques.
Thermoélectrique, oui, lié à la chaleur, l'effet Seebeck, par exemple. Si vous avez deux jonctions entre ces métaux à des températures différentes, eh bien, ça crée une tension électrique.
Ah,
et ça sert à quoi? C'est la base des thermocouples, des capteurs de température super courants. Et il y a l'inverse, l'effet Peltier. Vous faites passer un courant et ça va déplacer de la chaleur d'une jonction à l'autre. Ça crée du froid d'un côté, du chaud de l'autre, comme une mini-pompe à chaleur. Incroyable ce lien chaleur-électricité. Bon, ok pour les métaux, mais si on passe au liquide, les solutions électrolytiques, là j'imagine que ça change pas mal.
Ce ne sont plus les électrons qui font tout le travail.
Exactement, on change de porteur de charge. Dans un électrolyte, c'est-à-dire une solution avec des sels, des acides, des bases dissous, ce sont les ions qui bougent. Les ions.
Oui, des atomes ou des groupes d'atomes qui ont perdu ou gagné des électrons, donc qui sont chargés électriquement. Les ions positifs, les cations, vont vers l'électrode négative, la cathode, et les ions négatifs, les anions, vont vers l'électrode positive, l'anode.
D'accord.
Et c'est ce déplacement d'ions, ce double courant en quelque sorte, qui constitue le courant électrique dans les solutions.
Et ce courant, il peut provoquer des réactions chimiques, c'est ça? Les
Ouais.
écrans lisent.
Tout à fait. L'électrolyse, c'est quand le courant force une réaction chimique d'oxydoréduction qui ne se ferait pas toute seule. L'électricité devient un peu un réactif chimique. Et la quantité de matière transformée, elle est super bien définie par la loi de Faraday pour l'électrolyse.
Ah oui, avec la constante de Faraday, l'équivalent chimique.
Précisément. Ça permet de calculer exactement combien de produits on va obtenir pour une certaine quantité d'électricité.
Et là, on voit tout de suite les applications chimiques, les piles, bien sûr, y compris les piles à sec, les accumulateurs rechargeables comme nos batteries lithium-ion de téléphone.
Absolument.
Et même les cellules à combustible. Tout ça repose sur ces mouvements d'ions entre une anode et une cathode.
Exactement.
Ok, on a vu les solides, les liquides, restent les gaz. A priori, l'air autour de nous, ça conduit pas vraiment l'électricité, heureusement d'ailleurs. Alors, comment un courant électrique dans les gaz peut exister?
Bonne question. Normalement, un gaz est un très bon isolant. Ses molécules sont neutres. Pour qu'il conduise, il faut le rendre conducteur. Il faut l'ioniser.
Ioniser, c'est-à-dire?
Ça veut dire qu'il faut casser certaines molécules de gaz pour créer des charges libres, des ions positifs et des électrons. Il faut des agents ionisants. Ça peut être naturel, comme le rayonnement cosmique qui nous bombarde en permanence.
Ah oui.
Ou ça peut être artificiel, par exemple un champ électrique très très intense qui va arracher les électrons.
Et une fois que le gaz est ionisé, qu'il a ses charges libres, alors là, le courant peut passer.
Voilà. On parle alors de décharge électrique dans le gaz. Et ça peut prendre plein de formes. Ça peut être très violent, comme un éclair, ou plus contrôlée, avec une émission lumineuse, comme dans les tubes néons ou les lampes fluorescentes. C'est une décharge luminescente.
Cette décharge, elle produit elle-même plus d'ions, elle peut s'auto-entretenir. Et dans des conditions de vide poussé, on peut même générer des faisceaux d'électrons très énergétiques, les rayons cathodiques, la balle des anciens écrans de télé.
Incroyable, la variété des phénomènes. Donc, si je résume un peu tout ça, que ce soit les électrons qui dérivent dans les métaux, les ions qui voyagent dans les solutions, ou les gaz qu'on force à s'ioniser, le point commun, c'est toujours un mouvement de particules chargées.
C'est tout à fait ça. Trois mécanismes, trois styles de conduction très différents selon l'état de la matière, mais le principe fondamental reste le même, des charges en mouvement.
Et c'est ce principe qui est à la base de toute notre technologie électrique et électronique.
Absolument essentiel.
Et ça ouvre une perspective fascinante, non ? On comprend bien ces mécanismes aujourd'hui. Mais la recherche, elle, continue. Comment on explore, comment on crée peut-être de nouveaux matériaux avec des propriétés conductrices encore inconnues, peut-être pour mieux stocker l'énergie, pour des ordinateurs plus puissants, pour répondre aux défis de demain. Quelles sont les prochaines frontières de la conduction électrique ? Voilà une question qui reste ouverte.